Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. C'est-à-dire vainqueurs, plus que vainqueurs, c'est vainqueurs sans combat, puisque ce n'est pas nous qui combattons, c'est Christ qui combat. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. À travers tous les siècles, la résilience de nombreux chrétiens faisant face à une intense persécution démontre la réalité de cette promesse extraordinaire que le Seigneur nous a adressée par l'apôtre Paul. Même dans les pires circonstances, l'amour de Dieu continue à nous atteindre et à nous garder en lui. Pour nous en convaincre, je vous propose d'examiner quelle est la réalité des souffrances que traversent les chrétiens. Quelle est la réalité de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et que puis-je faire, moi, face à la souffrance de mes frères et sœurs persécutés? Quelle est la réalité des souffrances que traversent les chrétiens? En premier point, la souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. Depuis Abel jusqu'à l'apôtre Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, par Jésus lui-même, ça a été rappelé dans les prières tout à l'heure, et en passant par les premiers chrétiens, la persécution a toujours accompagné les croyants et ceux qui veulent plaire à Dieu et le servir. Jésus explique la persécution par ses paroles. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait et vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Ça a été dit aussi dans une prière tout à l'heure. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, dit Jésus, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas et ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda au gardien de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul, l'apôtre Paul, dira « 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. » Vous saviez, ils arrêtaient à 39 parce qu'ils craignaient que s'ils allaient à 40, il y a la mort derrière. C'est pour ça qu'on arrêtait à 39 coups de bâton. Je ne sais pas si vous imaginez 39 coups de bâton sur le dos. 3 fois, j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. Et 1 fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. Ils le croyaient mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez du texte. Si vous connaissez le texte, ils croyaient que Paul était mort. En fait, il ne l'était pas, par la grâce de Dieu. 3 fois, j'ai fait naufrage. 1 fois, je suis resté dans 1 jour et 1 nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands, les dangers dus à mes compatriotes juifs ou à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger parmi de faux frères. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. Souvent, j'ai été privé de sommeil, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Et sans parler du reste, dit l'apôtre Paul, il y a ma préoccupation quotidienne, le souci que j'ai de toutes les églises. Nous venons de voir les nombreuses souffrances subies par l'apôtre Paul dans son ministère. Son ministère d'annonce de la parole, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. D'ailleurs, notre Seigneur avait prévenu, souvenez-vous, il a dit, j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi, a dit Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 15 à 16. Et cette souffrance peut aller jusqu'à la mort. Dans sa deuxième lettre à Timothée, la dernière qui nous soit parvenue et qui a été écrite dans sa prison à Rome, vraisemblablement en 66 ou en 67, on n'a pas la date exacte, peu avant sa mort, en tout cas la même année, Paul ajoute « Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend, dit l'apôtre Paul. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où Jésus apparaîtra. Il ne faut pas penser que la persécution était réservée à l'Église primitive. Nous avons probablement tous entendu parler des martyrs subis par les premiers chrétiens. Mais sommes-nous attentifs aux martyrs des chrétiens d'aujourd'hui? Écoutons le témoignage de Barnabas, pasteur au Nigeria. Il a été brutalement attaqué par des militants peuls, un groupe d'extrémistes islamiques responsables de nombreuses attaques violentes dans le centre et le nord du Nigeria.
J'étais à la ferme avec mon frère Everen et sa femme Friday. Nous avons entendu des coups de feu et vu des gens courir de différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, d'autres encore avec des bâtons. Tragiquement, Everen et Friday n'ont pas pu échapper à leur persécuteur. Cela fait presque 5 ans, mais la douleur est encore vive pour moi. Mon frère a été abattu par le militant et la femme de mon frère également a été touchée, puis tuée à la machette.
Barnabas n'a pas pu s'arrêter pour aider son frère et sa belle-sœur, ni même pour récupérer leur corps. Alors qu'il fuyait, l'un des militants l'a frappé avec un bâton et lui a gravement cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme. Et bien qu'il ait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour payer une première opération, Barnabas n'a pas les moyens de faire enlever le métal resté dans sa main. Main qu'il ne peut donc pas utiliser normalement. C'est un rappel quotidien de l'horreur qu'il a vécue. L'opposition que rencontrent les chrétiens n'est pas seulement due aux difficultés de la vie ou à des conflits qui secouent notre planète. Elle vient d'une haine que le monde développe pour Dieu et pour son Fils, et par conséquent pour chacun de ses enfants. Nous sommes traités de la même manière que notre Seigneur l'a été, et la Bible nous révèle que l'origine de ce combat est spirituelle. Nous l'avons chanté ce matin. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Si nous perdons de vue que le combat est spirituel, nous risquons de combattre par nos propres forces et nous pouvons très vite nous épuiser. Toute cette souffrance peut alors rapidement nous conduire à douter. L'épreuve de la persécution peut amener les chrétiens à douter de l'amour permanent et inconditionnel de Dieu pour eux. Écoutons le témoignage de Jérôme. Jérôme, c'est un pseudonyme pour des raisons de sécurité. C'est un chrétien qui vit dans un camp de personnes déplacées à Waïcha, une ville dans la province du Nord Kivu, au nord-est de la République démocratique du Congo. Jérôme a dû tout quitter à cause des violences orchestrées par les ADF, les forces démocratiques alliées, un groupe d'extrémistes liés au groupe État islamique.
Bonjour, Jérôme témoigne. J'ai fui parce que les membres de ADF avaient tué mon fils. Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà brûlé. De nombreux civils ont été tués. La moto a brûlé, nous n'avions plus rien. Nous sommes partis à pied vers Oïcha, où nous avons trouvé abri dans les camps de personnes déplacées. Un jour, j'étais partie chercher de la nourriture à l'extérieur du camp. J'ai de nouveau croisé les troupes ADF qui m'ont poursuivi et m'ont sommé de m'arrêter. Certains disaient « Kafiri, arrête-toi », ce qui signifie « non-musulman, arrête-toi ». Dieu m'a aidée et je me suis sauvée en courant. Même dans la sécurité relative du camp, la vie est très dure. Obtenir de la nourriture est notre principal problème maintenant que nous sommes déplacés, car nous n'avons pas de lieu pour cultiver. La situation est très mauvaise. C'est difficile de vivre. Je vois bien comment la misère impacte négativement la foi des chrétiens. La faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade ou si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre votre confiance en Dieu. La foi est affaiblie. Les gens ne pensent plus à aller à l'église. Il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas la capacité de l'aider, il devient orgueilleux et arrête d'écouter. Je vois les jeunes fument de la marijuana, et disparaître pendant des jours entiers. Je constate aussi que la misère se traduit par de nombreuses grossesses chez les adolescentes. Il continue.
Le pasteur Paluku, responsable d'église à Osha, va dans le même sens. Le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Les personnes déplacées basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection. Cela a un impact négatif immédiat sur leur marche chrétienne. Jérôme résiste et s'accroche à sa foi, mais il a peur que ses enfants se détournent du Seigneur en doutant de son amour. En Europe, nous sommes beaucoup moins exposés que nos frères et sœurs à la persécution. Mais nous traversons aussi des épreuves. Ces épreuves peuvent également nous amener à douter de l'amour de Dieu, ce qui menace de diminuer, voire de refroidir notre foi. Doit-il en être ainsi? Au beau milieu de la nuit, en prison, enchaîné avec les sabots de bois aux pieds, l'apôtre Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et étaient entendus de tous les autres prisonniers. Ce doit être un exemple pour nous et un rappel que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Entendons la suite du témoignage du pasteur Barnabas. Aujourd'hui, il est le pasteur de milliers de chrétiens, l'un des nombreux camps de déplacés au Nigeria. Dans l'un des nombreux camps déplacés au Nigeria. Les conditions sont épouvantables, ça a été dit aussi tout à l'heure dans une prière. Les croyants ont tout perdu et sont confrontés au danger tous les jours. Mais Barnabas reste convaincu de la bonté de Dieu et ne doute pas un instant de sa fidélité.
Dieu m'a aidé, c'est lui qui m'a soutenu et m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je m'accroche toujours fermement à lui. J'encouragerai toujours des milliers de chrétiens qui m'entourent à croire en Dieu, peu importe depuis combien de temps nous sommes dans le camp, dans ce camp. Un jour viendra où Dieu nous ramènera dans nos maisons ancestrales. Cela fait plus de 4 ans que nous sommes ici. Je suis arrivé sans rien, mais Dieu utilise des personnes et des groupes pour prendre soin de nous.
Voyons maintenant que Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. L'apôtre Paul ne considère pas la survenue des épreuves comme un échec ou une défaite pour le croyant. Bien au contraire, il estime que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. On l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire vainqueurs sans combat. Une manifestation de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve. Mais que signifie avoir la victoire ? Le chapitre 11 de Hébreux nous donne une liste de personnes ayant obtenu la victoire dans l'épreuve. La victoire par la foi. Abel, Enoch, Noé, Abraham. Et cette liste montre clairement 2 manières d'être victorieux. Pour certains, la victoire, c'est éliminer la persécution ou lui échapper. Et pour d'autres, c'est rester fidèle dans la persécution. La victoire, c'est rester fidèle dans la persécution. C'est une réalité que vivent aujourd'hui nos frères et nos sœurs persécutés. C'est une réalité qui nous concerne aussi lorsque nous traversons des combats et des épreuves. Le triomphe du Christ, le triomphe de Jésus, n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance. Et il aurait pu le faire. Ce triomphe n'a pas été obtenu par l'absence de souffrance, mais bien plutôt par sa souffrance terrible et sa mort sur la croix. Et comme il a connu et vécu la souffrance humaine, Jésus peut et veut nous accompagner lorsque nous souffrons. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, y compris dans la souffrance. Jésus est présent à côté de celui qui souffre pour lui. Le livre de Daniel, au chapitre 3, nous raconte une extraordinaire histoire de persécution. Le roi Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor, comme vous préférez, exige que tous ses sujets se prosternent devant une immense statue en or. 3 hommes juifs refusent d'obéir. Et le roi, fou de rage, les fait jeter vivants dans une fournaise ardente. Il constate ensuite que ces hommes ne sont pas atteints par les flammes. On dira qu'ils ne sentent même pas le roussi quand ils sortent. Et qu'avec eux se trouve un 4e homme, qui, selon les propres termes de Nabucodonosor, ressemble à un fils des dieux. Quel devait être l'éclat qu'il a perçu à ce moment-là. Par contre, environ 600 ans plus tard, le diacre Étienne est lapidé pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté de dignitaires juifs. Il s'exclame peu avant de mourir, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Voilà deux exemples de persécution extrême dont les issues sont radicalement opposées. Dans le premier cas, les hommes sont miraculeusement sauvés. Dans le second, nous assistons à la mort du premier martyr de l'Église. Il y a néanmoins un point commun extrêmement significatif entre ces deux histoires. Dans les deux, Dieu était présent au moment suprême aux côtés de ses enfants persécutés. Le quatrième homme dans les flammes, et le ciel ouvert, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, en ce qui concerne Étienne. De nos jours encore, de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec leur Seigneur, dans les moments les plus difficiles de leur vie. Le pasteur Wang Mingdao, sortant de 20 années passées dans les geôles chinoises, à cause du Christ, 20 ans, déclarera, je le croyais à peine, « J'ai vécu une lune de miel avec Jésus. » À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible, n'est-ce pas ? Nous voyons que nous pouvons même être conduits à la joie de souffrir pour Christ. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la Bible rapporte de nombreux témoignages de personnes qui ont éprouvé une sincère joie parce qu'ils souffrent pour le Seigneur, leur Seigneur. Après avoir été fouettés, les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Chouette alors. L'apôtre Pierre explique aussi dans sa première lettre que si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 14. Cette réalité est difficilement explicable, peut-être inadmissible pour l'un ou l'autre, et en tous les cas difficile. Mais lorsque nous prenons position pour Dieu ou souffrons par motif de conscience envers Dieu, une joie divine qui dépasse l'entendement peut nous envahir. Et sa douceur et sa beauté dépassent les souffrances endurées. N'est-ce pas une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu envers tous ceux qui souffrent ? Et par-dessus tout, l'amour de Dieu se manifeste par la promesse de la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. L'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de la vie éternelle. Cette certitude est comme une ancre qui ne peut nous être arrachée par aucun moyen ni aucune puissance de ce monde. Elle nous est garantie par Dieu en Jésus-Christ. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir à long terme. Il regarde au-delà de la souffrance et de la mort et saisit par la foi la réalité de l'éternité. La persécution et l'épreuve nous amènent à prendre de la hauteur et à considérer notre existence éternelle. Cette perspective est un puissant rappel de l'amour de Dieu qui nous accompagne plus loin que cette terre, au-delà du voile de la mort. Peut-être Dieu permet-il une épreuve ou une difficulté dans votre vie, ou dans notre vie, pour nous amener, nous aussi, à détacher nos regards des choses de ce monde et à considérer ce qui importe vraiment à ses yeux. Écoutons et prenons exemple sur la foi de nos frères et sœurs africains, vous allez l'entendre, qui chantent « Tout va bien » au cœur de la persécution. À si on peut éteindre les lumières.
Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte.
La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipitée. J'ai vu au sol le corps de mes deux enfants, sans vie.
Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu.
C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos.
Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu. Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Bénu, au Nigeria.
This is where we live. C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans-religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens.
Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles.
Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessées. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu. Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui.
Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes? Car il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise.
Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons.
Nous venons de constater la réalité des souffrances que traversent certains chrétiens et de voir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous pouvons aussi constater que la foi de nos frères et sœurs persécutés peut nous aider à raviver notre foi. Par contre, nous, Européens, qui ne subissons pas actuellement la persécution, nous pouvons légitimement nous poser la question: que puis-je faire, moi, face à la souffrance de mes frères et sœurs persécutés? Rien ne doit les séparer de notre amour. Premier point, les aider dans leurs besoins vitaux. Oui, mais ils nous sont inaccessibles. Par l'intermédiaire de portes ouvertes, en soutenant portes ouvertes, nous pouvons les aider à se nourrir, à se vêtir. Nous pouvons les visiter, y compris dans les camps de déplacés ou dans les prisons. Revenons au témoignage du pasteur Barnabas.
Grâce à votre soutien, les partenaires locaux des portes ouvertes ont pu fournir des colis alimentaires d'urgence aux personnes déplacées dans ce camp. Ces colis leur donnent la confiance que Dieu ne les a pas abandonnés et qu'il utilise les partenaires locaux des portes ouvertes comme ses mains et ses pieds. Outre l'apport de nourriture, nos partenaires offrent aussi des formations professionnelles et des soins aux victimes des traumatismes afin de favoriser la résilience et l'autosuffisance à long terme. Enfin, ils ont également été en mesure d'aider financièrement pour permettre une seconde opération de ma main.
Écoutons également la suite du témoignage de Jérôme. Humainement parlant, il ne semble pas y avoir de solution en vue, mais Jérôme s'accroche aux promesses de la Bible.
C'est bon. Ce qui me réconforte, c'est le psaume 35. Quiconque lit ce psaume entendra immédiatement des échos de mon histoire. Éternel, accuse ceux qui m'accusent, combat ceux qui me combattent. Emporte-toi du petit et du grand bouclier et lève-toi pour me secourir.
Au verset 17, le psalmiste craque. et demande simplement « Seigneur, combien de temps le supporteras-tu ?» C'est le stade où se trouvent Jérôme et beaucoup d'autres personnes déplacées en République démocratique du Congo. Ils n'ont nulle part où aller et ne dépendent que de Dieu. « Combien de temps, Seigneur » implore-t-il en demandant à Dieu de combattre pour eux. Et par la grâce du Seigneur, ils arriveront peut-être un jour à proclamer, comme le psalmiste à la fin du psaume 35, « Alors ma langue célébrera ta justice et ta louange tous les jours. » C'est notre prière pour eux. Jérôme cite un hymne qu'il chante pour se réconforter.
L'œuvre de mes mains ne peut jamais me sauver. Même si je pleurais beaucoup, même si je travaille beaucoup, je serais incapable de me sauver moi-même. Toi seul et Seigneur.
C'est l'espoir de Jérôme et des déplacés en République démocratique du Congo et dans tous les pays subissant la persécution. Ils ont été chassés, attaqués et abandonnés. Il est difficile de voir comment Dieu est à l'œuvre dans les camps, mais dans la foi de Jérôme, la grâce et l'amour de Dieu continuent de briller. Nous sommes ainsi appelés, invités à soutenir Portes Ouvertes. Et en plus de soutenir Portes Ouvertes, nous pouvons aussi participer au projet Terrain.
Projet Terrain. Offrez une Bible à un chrétien d'Afrique subsaharienne. Tous les chrétiens persécutés ne possèdent malheureusement pas leur propre Bible. Soit ils l'ont perdue, s'ils ont fui les violences, ou bien ils n'en ont jamais possédé une, s'ils sont de nouveau convertis, ou si leurs moyens ne leur permettent pas. Ou peut-être ne savent-ils pas lire, et ont-ils dans ce cas besoin d'une Bible audio ? Alors, par notre soutien aujourd'hui, nous pouvons offrir une Bible et du matériel d'études bibliques à un chrétien persécuté d'Afrique subsaharienne. Par exemple, trois exemples. Avec 10 euros, on offre une Bible. Avec 60 euros, on offre du matériel d'études bibliques à deux chrétiens. Et avec 100 euros, on offre une première Bible ainsi qu'un accompagnement spirituel à cinq nouveaux chrétiens convertis.
Afin de venir en aide à nos frères et sœurs persécutés, nous pouvons également signer la pétition pour prendre leur défense, plaider leur cause auprès des pouvoirs publics. C'est ce que Portes Ouvertes a nommé la campagne Afrique.
Donc cette campagne, Afrique unie contre la violence, et donc la Porte Ouverte entreprend de répondre à l'appel de l'Église d'Afrique. Ici particulièrement. L'objectif est donc pour fin 2026, c'est-à-dire dans 2 ans, atteindre 1 million de personnes dans le monde qui signent la pétition pour demander à ce que les chrétiens déplacés en Afrique subsaharienne soient traités avec dignité et respect. 1 million de personnes dans le monde entier. Donc, en signant la pétition, qui a pour but donc de demander la fin des violences, toutes ces voix, ces milliers, ces millions de voix, servent à soutenir la protection des chrétiens, la justice et la restauration des communautés touchées. Parce que cette pétition va être présentée devant les organismes internationaux, que ce soit notamment l'ONU, et plus il y aura de signatures, plus il y aura, ces signatures auront du poids devant les autorités internationales, plus on va en parler aussi dans les médias.
Et par-dessus tout, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons prier, bien évidemment. J'ai envie de dire, nous devrions prier, nous devons prier. Voici quelques sujets de prière. Prier pour Jérôme.
«
prié pour que les besoins quotidiens de Jérôme en nourriture et en sécurité soient satisfaits. Priez pour les adolescents de Jérôme afin que les vies soient remplies d'objectifs et d'espoir. Demandez à Dieu de renforcer la foi de Jérôme au milieu des difficultés et de la persécution.
Priez pour Déborah, veuve avec 5 enfants luttant pour survivre dans le camp de déplacés d'Ocha en RDC, République démocratique du Congo.
Ils ont tué mon mari. Il était réparateur et dormait dans son atelier pour le garder. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé du sang partout. Il avait été frappé avec un marteau. Je pleure encore beaucoup. Je ne suis pas capable de faire le moindre travail. Je n'ai pas la force de me nourrir moi-même. Alors je dépends des autres. Je vis de la grâce. Je suis devenue une personne pitoyable. Demandez à Dieu de réconforter Déborah aujourd'hui. Qu'elle sache que le Seigneur veille sur elle. Élevez les enfants de Déborah devant Dieu et priez pour leur avenir. Priez pour la restauration de Déborah alors qu'elle participe aux séances de guérison des traumatismes offertes par Portes Ouvertes.
Priez pour Jonathan, lui aussi dans le camp de déplacés de Ocha.
Jonathan tient une précieuse photo de famille. Elle lui rappelle des temps heureux, avant que sa mère, son père et la plupart de ses frères et sœurs ne soient assassinés dans leur maison. Aujourd'hui, Jonathan vit avec son frère de 17 ans, Kambalé, dans un camp de réfugiés. Kambalé est profondément traumatisé. Il a vu sa famille se faire tuer par des militants des forces démocratiques alliées. Il est difficile pour mon frère d'en parler, explique Jonathan. Il s'est caché, mais il a vu tout. Jonathan cherche du travail et espère pouvoir gagner suffisamment pour se nourrir et prendre soin de son frère. Ma vie spirituelle a changé depuis la mort de mes parents, dit-il. Parce que je dois travailler et gagner de l'argent, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Priez pour les survivants traumatisés comme Kambalé. Demandez à Dieu de les guérir et de les restaurer. Priez pour Jonathan, pour que ses besoins physiques soient satisfaits et qu'il revienne pleinement à Jésus. Demandez à Dieu de donner à ces garçons un avenir de joie, d'espoir, d'amour et d'épanouissement.
Priez pour le pasteur Barnabas.
Priez pour que le pasteur Barnabas reste confiant dans l'amour, la puissance et la bonté de Dieu. Priez pour que les chrétiens déplacés guérissent de leurs blessures physiques et psychologiques et puissent un jour rentrer chez eux. Priez pour que les militants Peul et les autres persécuteurs se détournent de la violence et choisissent de suivre Jésus.
Par-dessus tout, nous pouvons prier. Nous venons de voir quelques situations seulement et nous pouvons avoir l'impression ou le sentiment que ce n'est qu'une goutte d'eau. Et c'est vrai. Mais n'oublions jamais que goutte à goutte, l'eau use la pierre. Au point, par exemple, d'avoir creusé le Grand Canyon du Colorado. Imaginez un canyon de Lyon jusqu'à Marseille, de 1300 mètres de profondeur et de 5,5 km de large à son endroit le plus resserré. Et la prière est encore infiniment plus puissante puisqu'elle fait appel à notre Dieu tout puissant. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite aujourd'hui à un engagement de vous-même, vis-à-vis de vous-même et devant Dieu. Il s'agit de s'engager à prier durant un an jusqu'au prochain culte sur l'Église persécutée. Vous pouvez choisir de prier une fois par mois. Par exemple, le premier dimanche du mois ou le dernier jeudi. Choisissez un moment où vous êtes presque sûr de ne pas être dérangé. Vous pouvez choisir de le faire une fois par semaine ou même une fois par jour. Vous allez avoir chacun, il va vous être distribué chacun, un bulletin d'engagement. Ce bulletin, vous le remplirez ou pas, pour vous-même et vis-à-vis de vous-même. Il ne regarde que vous. Emportez-le chez vous pour avoir le temps de la réflexion. Si vous décidez de vous engager, ce bulletin sera pour vous un aide-mémoire. Mettez-le à un endroit où vous pouvez le voir, par exemple dans votre Bible. Et une fois l'engagement pris, si vous décidez de vous engager, faites tous vos efforts pour le tenir. Et si vous tombez en chemin, si vous oubliez, n'abandonnez pas. Demandez simplement pardon à notre Seigneur qui est fidèle et juste, qui connaît nos faiblesses et qui nous pardonne. Puis repartez, priez à nouveau. Et outre les pays qui figurent au verso de ce bulletin, vous pouvez trouver d'autres sujets de prière sur le site de Portes Ouvertes. Pour ceux qui voudraient rejoindre les groupes de prière en ligne de Portes Ouvertes organise des groupes de prière en ligne, vous pouvez vous inscrire directement sur le site également. Comme vous pouvez le voir, chers frères et sœurs, même si nous sommes loin géographiquement, même si nous sommes séparés de nos frères et sœurs persécutés, nous pouvons être proches de bien des manières, et avant tout, par la prière. En conclusion, soyons l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés. Voilà le site. Vous avez donné, prié avec eux et signé la pétition. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'abandonne jamais nos frères et sœurs persécutés. De même qu'il ne nous abandonne jamais non plus si nous sommes dans l'épreuve. Allons trouver en lui le réconfort et la force de traverser les épreuves en vainqueur par sa présence aimante, les promesses et l'espérance qu'il nous offre. Le Seigneur nous responsabilise ainsi sur ce qui advient à nos frères et sœurs de l'Église persécutée. Ils ont besoin de nous, de nos prières, de notre affection et de marques concrètes d'amour et d'aide dans leurs difficultés quotidiennes. Défense légale et plaidoyer auprès des pouvoirs publics en signant la pétition, aide d'urgence alimentaire et médicale, soins post-traumatiques, fourniture de Bible et de littérature chrétienne, etc., etc. Rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus et rien ne les séparera de notre amour. Voilà, vous pouvez distribuer les bulletins. Chacun, vous en prenez chacun un et puis vous faites passer. Voilà le bulletin d'engagement. Pour faire un don, vous pouvez trouver vous avez une boîte au fond de l'église si vous souhaitez faire un don en espèces ou par chèque. Donc, faire un don, prier, signer la pétition. Voilà les trois points essentiels. Que le Seigneur vous conduise et vous bénisse dans cette démarche. Amen. Et je vous propose de terminer ce culte en chantant « En Jésus seul ».